Aquarius, performing search and rescue operation.
We will come to you with our small boat.
Check for children.
Correct.
Le drame.
Oui.
La Méditerranée. Pour introduire cette émission, Cécile Silvestri, une des bénévoles actives de SOS Méditerranée à Marseille, a choisi de nous lire un extrait du texte « Les Désenfantés » de Nathalie Mdela-Mounier.
Les Désenfantés de Nathalie Mdela-Mounier, une pièce pour le théâtre aux éditions Tama, scène 3, Le migrant et la migrante. Moi, ma mère, je lui ai dit que tout allait bien. Que bientôt elle allait recevoir un SMS pour l'avertir du versement de Western Union. Mais si ça continue, il rentre son portable dans sa poche d'un air sombre. Je crois que je ne vais plus essayer ce soir. Après tout, je n'ai rien de mieux à lui dire. Si ce n'est pour mentir, ne pas répondre aux questions, juste cacher les os saillants de nos vies nues et maigres. À quoi ça sert qu'elle et mon père se soient grattés au sang pour que je fasse des études, que je parte en portant sur mon dos des dettes de toute la famille? Mieux vaut encore le silence et l'espoir, tu ne crois pas? Et puis, quand je lis au creux de mon oreille, ma mère, ça fait vraiment mal. Quand elle parle trop, et même quand elle silence, je vois chacun de ses petits gestes. Comment elle ramène vite fait son foulard pour cacher ses tresses quand arrive un visiteur. Elle le fait même quand quelqu'un appelle au téléphone comme s'il pouvait la voir. Comment elle siffle entre ses dents parce qu'elle est mécontente, comment elle cache ses larmes derrière une vaine colère. Et si ça a du bon de l'entendre, ça me tord le bide et donne envie de vomir. Des mois de bile faisant remonter un passé proche qui pue. Non, ce soir, je n'ai même pas essayé de l'appeler. Je vais encore une fois rester aux abonnés absents. Juste coller mon oreille sur le sable, à la lisière de l'eau, et écouter la mer, me rapporter les paroles de ceux qui sont dissous. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que le sel me sorte du cœur.
Bonjour, ici Hélène Bourgon et Anaïs Hénon. Bienvenue à la 6e émission consacrée à SOS Méditerranée. Aujourd'hui, on accueille Jonathan Guérecht. Jonathan, tu as fait partie de l'équipe de marins sauveteurs. Tu as fait 2 missions et tu es resté en tout 1 mois et demi à bord de l'Aquarius. Tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à embarquer pour cette mission de sauvetage en haute mer ?
Ce qui m'a amené à embarquer à bord de l'Aquarius d'SOS Méditerranée, j'ai suivi l'achat, la location du bateau, enfin les news en règle générale de SOS Méditerranée, et de plus en plus à force de suivre la mise en place du projet par Sophie Beau et Karl, en fait, j'ai de plus en plus eu envie de prendre part au projet. Par ailleurs, mon métier étant marin, j'ai régulièrement exercé sur les mers, mais pas forcément pour des causes qui me tenaient vraiment à cœur, puisque c'était essentiellement pour transporter des marchandises. Et depuis longtemps, j'avais pour projet de faire de l'humanitaire, parce que simplement pour les valeurs auxquelles j'adhère, etc. Et ça semblait une occasion parfaite de faire coïncider les deux. Mes compétences dans le milieu maritime et mon engagement, entre guillemets, dans l'humanitaire. Donc voilà.
Donc toi, ton métier, c'est marin ?
Tout à fait, oui. Je suis marin depuis 10 ans maintenant.
Et quelle est ta formation ?
J'ai réalisé ma formation ici, dans l'école de la marine marchande de Marseille, qui, entre le moment où j'ai commencé ma formation et maintenant, a changé 3 fois de nom, mais qui, je crois, actuellement s'appelle l'École nationale supérieure maritime. Donc voilà, j'ai passé un diplôme d'officier polyvalent de la marine marchande.
D'accord. Et donc, peux-tu nous introduire et nous expliquer comment se déroulent les missions de sauvetage à bord de l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée ?
Oui, actuellement, le bateau a pour port d'attache, si on peut dire ça comme ça, le port de Catane en Sicile. Et depuis la Sicile, il se rend dans ce qu'on appelle les eaux internationales libyennes, mais qui en fait de par leur nom, en fait, sont juste des eaux internationales, ne sont pas du tout rattachées à la Libye, mais se trouvent devant les eaux intérieures libyennes. Donc, en fait, les eaux intérieures libyennes, c'est une limite qui a été fixée par une convention il y a très longtemps, qui dit que chaque État possède une bande de 12 000 nautiques, c'est-à-dire 24 km, devant ses côtes. Donc, en fait, dans la mesure où il régente, bien sûr, ces eaux-là, donc de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit ou autre par rapport au pays, enfin, si on peut dire le pays de la Libye, vu qu'on ne connaît pas vraiment le gouvernement, etc., l'Aquarius et les autres ONG qui opéraient à l'époque se placent juste devant la limite des 12 000.
Juste cette règle des 12 000, donc 24 km en zone territoriale, ça s'applique dans le monde entier ?
Tout à fait, oui. Il s'agit de la Convention internationale de Montego Bay qui a été votée par les 156 États, je crois, qui appartiennent à l'Organisation maritime internationale. Après, au-delà de ça, il y a une question un peu particulière qui pourrait se poser, qui est simplement pour une convention beaucoup plus ancienne, qui est la Convention de Londres de 1969, en fait, qui porte sur le sauvetage en mer, toute personne est obligée de porter assistance à une personne qui est en danger en mer. Donc, quelque part, on pourrait même dire que s'il s'avérait qu'il y avait vraiment un désastre, un sauvetage à opérer dans les eaux intérieures libyennes, on pourrait potentiellement intervenir. Après, lequel est le plus gros dans la balance, je pense que SOS Méditerranée n'a pas voulu se poser la question et préfère rester loin des problèmes diplomatiques et qui sont plus dangereux par rapport aux gardes-côtes libyens, etc.
Donc aujourd'hui, l'Aquarius, il opère où exactement ?
Pardon, donc pour finir, en gros, aujourd'hui, l'Aquarius reste au large de 24 km, au large des côtes libyennes. Plus ou moins au niveau de Tripoli, en fait. Tout dépend de là où sont recensés le plus de naufrages, mais bon, en règle générale, en fait, à l'époque où j'étais encore à bord, de ce qui me semble, en fait, c'est plus ou moins au large de Tripoli.
Et il y a d'autres bateaux qui exercent des sauvetages ?
Oui, alors il y a plusieurs ONG qui ont répondu également à cette problématique de vie humaine perdue en mer. Il y a Proactiva Open Arms, pour ceux que je me souviens, à l'époque MSF avait des bateaux, etc. Mais ce qui s'est passé, alors, peut-être que vous serez plus à même à développer cette question-là, mais c'est que le gouvernement italien et le gouvernement libyen ont pris le parti de signer une convention à deux, avec l'appui de l'Europe, qui réglementait les opérations de sauvetage en mer. Ce qui est quand même assez particulier, parce que, comme je vous le disais, les opérations de sauvetage en mer relèvent d'une convention de Londres qui dit que tous les moyens doivent être pris, etc., pour porter assistance aux personnes. Et eux, en fait, ont globalement voulu mettre des bâtons dans les roues aux différentes ONG qui opéraient, en réglementant ce code de conduite, etc., en autorisant certaines choses qui ne sont jamais tolérées normalement dans les opérations humanitaires, et de ce fait, beaucoup d'ONG, dont MSF et autres, ont préféré se retirer des opérations parce que potentiellement trop dangereux pour les personnes qui opéraient ces opérations.
Et ensuite, concrètement, toi, en tant que marin sauveteur, qu'est-ce que tu as fait à bord ?
Ben, en fait, ce qui se passe à bord, c'est que les équipes d'SOS Méditerranée sont embarquées pour procéder au sauvetage. SOS Méditerranée a, ce qu'on pourrait dire, affrété l'Aquarius, donc avec son équipage. Donc tout ce qui est la partie navigation qui consiste à amener l'Aquarius depuis son port d'attache à Catane jusqu'au large de la Libye, c'est opéré par les marins du bord. Et ensuite, les marins de l'Aquarius, eux, vont réaliser le sauvetage, donc c'est-à-dire mettre à l'eau des semi-rigides et intervenir sur les embarcations qui sont en péril. Donc généralement des semi-rigides de très mauvaise facture ou des bateaux en bois qui sont bien bien au-delà de la dotation, enfin, du nombre de personnes qui pourraient accueillir à bord.
Oui, on parle d'embarcations de pneumatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'embarcations qui sont faites en pneumatiques en plastique, dont le plastique est épais.
On est très loin d'un Zodiac normal que vous pouvez observer sur une plage ou qui peut être utilisé par les marins sauveteurs de type la SNSM ou alors ou simplement le plaisancier normal qui va avoir un Zodiac. En fait, non, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins épais, beaucoup moins solide. Et, bon, c'est une question qu'on soulève assez souvent, c'est qui a pris l'initiative de construire des bateaux qui, a priori, sont directement dédiés à mener ces opérations, enfin, mener ces opérations sur un peuple comme ça, à tenter une aventure plus que périlleuse en mer, vu que c'est des bateaux qui sont très grands, qui sont pas du tout faits pour ça, qui en gros relève du pneumatique pour enfants sur la plage, avec lequel on ne s'amuserait pas à aller à plus de 5 mètres du bord, mais qui eux tentent de traverser.
Et il y a combien de personnes dans ces embarcations?
Ben c'est donc ben vous imaginez un bateau d'enfants, enfin de sa structure et qui fait 6 mètres de long sur non, fait 6 mètres et demi je crois je dirais et sur 2 mètres de large et vous mettez entre 100 et 130 voire des fois 140 personnes à l'intérieur dont des enfants, des femmes et parfois des bébés ou des femmes enceintes qui sont très proches du terme et qui et voilà.
Et quand vous arrivez à proximité de ces embarcations de fortune, comment vous procédez?
Du coup, on évacue par donc on a deux semi-rigides à bord de l'Aquarius, en fait, qui eux sont des semi-rigides de bonne facture, qui du coup nous permettent de prendre 10 personnes à notre bord et de les rapatrier en lieu sûr à bord de l'Aquarius. Donc en fait, on va opérer à deux zodiacs, l'un qui va se tenir à côté du bateau parce que ben il y a souvent des mouvements de panique. On est un peu les premières personnes qui peuvent voir dans leur périple de migratoire qui sont à peu près attentionnés avec eux. Donc ça a tendance certes à les émouvoir, mais des fois aussi à se dire que c'est le moment ou jamais de réussir à se sauver de cette embarcation, c'est de sauter dans l'eau et d'essayer de regagner le petit semi-rigide. Donc le but est dans un premier temps bien sûr de calmer l'ambiance et de les rassurer sur le fait que tout le monde va être sauvé et d'éviter justement de surenchérir sur une autre catastrophe qui serait que tout le monde se jette à l'eau et pour une bonne partie ils n'ont pas de gilet de sauvetage et ne savent pas nager, donc ça serait dommage si proche du but, si on peut dire ça comme ça, de perdre sa vie en se noyant.
Voilà. Et toi, est-ce que dans les différents sauvetages que tu as fait, est-ce qu'il y en a un particulièrement qui t'a marqué, qui te reste en mémoire?
Oui, enfin, tous sont quand même uniques, même si des fois on a l'impression que c'est un process qui se réitère. Mais justement, de ce fait, dès que les deux parts, entre l'aspect matériel du bateau qui est très mauvais dans lequel ils sont, et le fait qu'ils sont beaucoup trop et qu'ils sont sujets, ils sont désemparés et sujets à la panique, etc., en fait, on est régulièrement obligé de calmer les foules, et pour peu que vous ajoutez le fait qu'il y ait mauvais temps, ce qui était le cas le jour où le sauvetage qui m'a particulièrement marqué s'est déroulé, ben en fait vous avez des personnes qui tombent dans l'eau, le bateau qui finit par se crever, enfin leur bateau, j'entends pas le nôtre, etc. Donc une fois crevé, ben finit par couler, du coup ça rajoute un élément de panique supplémentaire et on a pu malheureusement voir des gens se noyer juste devant nous qu'on n'a pas pu secourir de par le nombre qu'ils étaient, la panique, et essayer également de rester nous en sécurité parce qu'on leur apporterait pas grand chose si nous aussi on se noyait dans la foulée en essayant d'en sauver quelques-uns parmi eux. Et du coup ce jour-là, sur les 150 personnes qu'on a pu sauver, il y a malheureusement une dizaine qui a péri devant nos yeux noyés, quoi.
Et toi, donc, en tant que marin, est-ce que tu avais déjà fait des sauvetages de ce genre?
Non, c'est concrètement dans la formation pour la marine marchande, en fait, donc pour le métier que j'ai exercé, on a un module qui s'appelle le Baertz, en fait, qui consiste à savoir comment se sauver du bateau en cas de problème, sur les bateaux à passagers, comment encadrer les passagers pour monter à bord des embarcations, etc., mais des embarcations qui sont de bien meilleure facture que celles qu'utilisent les réfugiés. Et par contre, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, de plus en plus, il y a des protocoles qui sont élaborés à bord pour savoir ce qui pourrait se passer si jamais on rencontre un bateau de réfugiés en péril qui est en train de couler, parce que on n'a pas le matériel nécessaire à bord d'un bateau. On a juste un petit Zodiac qu'on utilise rarement, à dire vrai, et du coup, on n'est pas du tout familier. On n'est pas du tout familier. On est bien sûr familier au milieu maritime, mais on n'est pas forcément familier aux opérations de sauvetage sur un bateau pneumatique où 130 personnes sont à bord, quoi.
Et comment sont identifiées ces embarcations en haute mer? Qui les identifie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est un autre organisme?
On est deux, enfin, c'est-à-dire chaque bateau bien sûr mène une veille attentive en étant au large des côtes libyennes au cas où il apercevrait un bateau. Après, pour ceux qui ont été en mer, il est quand même difficile d'apercevoir un bateau aussi petit à plus de 4 ou 5 kilomètres de son propre bateau. Donc par ailleurs, il y a la marine italienne qui rapporte à ce qu'on appelle le CROSS, donc le centre de recherche d'opérations de secours et de sauvetage, qui est basé à Rome, qui s'occupe du sauvetage en mer pour la Libye, en fait. Et c'est ensuite ce même CROSS, en fait, le CROSS de Rome, qui nous contacte pour nous donner les informations concernant la position des bateaux en détresse.
Et comment ils arrivent à donner leur position? Comment ils arrivent à détecter la position de ces embarcations? Ça se fait depuis Rome ou c'est des embarcations parfois qui donnent un signal de détresse?
Soit, effectivement, on a eu des cas. En fait, le problème, c'est c'est une partie qui reste vraiment très floue, en fait. Enfin, moi, à l'époque où j'étais à bord, etc., sur comment est-ce que les gens avaient pu donner leur position. Enfin, leur position a été retrouvée parce qu'ils ont passé un appel au secours depuis un téléphone portable, parce que dans les consignes que leur donnent les passeurs, en fait, c'est de faire un certain nombre d'heures avec un moteur, etc., dans une direction, et une fois cette direction, enfin, une fois ce nombre d'heures opérées, ils passent un coup de téléphone, et de là, effectivement, le CROSS arrive à trianguler l'appel. Je crois que c'est comme ça qu'on dit encore pour les téléphones portables. Et une fois qu'il a triangulé l'appel, peut connaître sa position. Mais par ailleurs, vous avez également des avions de l'armée italienne ou autre qui, en fait, patrouillent et qui voient l'embarcation en détresse. Et de là, en fait...
La signale.
Mais c'est vrai que nous, on n'a jamais eu d'information de ce propos. Et bon, après, on n'a jamais trop posé la question non plus aux réfugiés à bord, mais beaucoup, de toute façon, ne veulent pas répondre sur ces questions-là parce qu'on peur d'être identifiés comme des passeurs, en fait, si c'est eux qui ont passé le coup de téléphone, etc. Donc, voilà.
Donc, vous dépendez des directives de ce centre qui est basé à Rome.
Oui. Ben ça, de toute façon, le règlement international dit qu'en cas d'appel de détresse reçu, on doit en référer au CROSS, donc qui est à Rome, mais après, vous avez un CROSS dans chaque pays, en fait, c'est juste que chacun a sa zone d'activité, et c'est lui qui doit s'occuper de coordonner les opérations de sauvetage, parce que lui connaît la position des différents navires qui sont, donc les différents navires des ONG, la marine italienne qui également œuvre dans le cadre de l'opération Sophia, et aussi maintenant de la position des gardes-côtes libyens qui y œuvrent aussi, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Mais donc voilà. Et c'est eux qui coordonnent en fonction des moyens sur place, de la position et de la position du navire en détresse, les opérations de sauvetage.
Mais c'est vrai que maintenant, suite aux derniers accords qui ont été conclus entre l'Union européenne et certains responsables libyens, il y a une formation qui est donnée. On ne sait pas trop laquelle, en tout cas, à certains gardes-côtes pour mener des opérations de sauvetage et récupérer parfois des embarcations. Et ça pose énormément de problèmes par rapport au droit international qui dit qu'on n'a pas le droit de ramener des populations en détresse dans un pays qui n'est pas sûr. Et la Libye n'est pas considérée comme un pays sûr. Donc pour des marins comme vous, je pense voir aussi cette situation doit...
Oui. Après, moi, je n'ai pas participé à des opérations qui se sont déroulées comme ça. Mais c'est-à-dire que depuis que les Libyens opèrent régulièrement, des bateaux d'ONG se sont retrouvés face au fait que vous avez une embarcation en détresse en train de couler. Et comme on ne veut pas ramener plus de réfugiés sur le territoire européen, le CROSS donne la consigne d'attendre que ce soit les gardes-côtes libyens qui interviennent, qui des fois peuvent être très loin, et c'est quand même particulièrement éprouvant de voir un bateau en train de couler devant soi et de ne pas pouvoir intervenir. Je crois qu'il y a un mois et demi de ça, ou un mois, je crois, l'autre ONG, Proactiva Open Arms, qui a sauvé des réfugiés, a pris le parti d'intervenir malgré le fait que le CROSS leur avait dit d'attendre que les neveux de la Libyenne arrivent. Au bout d'une heure qu'elle n'arrivait pas, que le bateau continuait à se détériorer et donc une possibilité de naufrage, en fait, est intervenue. Et une fois son retour à Catane, donc également dans son port d'attache, des procédures policières ont été mises en place contre ce bateau, etc., qui s'est juste contenté de porter secours à un navire en train de couler, quoi.
En fait, vous, en tant que marin, du coup, vous êtes spectateur de cette situation directement. Vous êtes les premiers, enfin comme tu disais, les premiers à voir ça. Toi, qu'est-ce que de cette expérience, qu'est-ce que tu aimerais partager, qu'est-ce que tu aimerais faire entendre aujourd'hui aux auditeurs de Radio Grenouille?
C'est le fait que les gens ont l'air de croire que toutes ces populations s'exilent et tentent de traverser la Méditerranée sur des embarcations de fortune, pas pour le plaisir, mais vraiment dans une limite de facilité et limite par fainéantise de pas œuvrer réellement dans leur pays, etc., et de pas contribuer au développement de leur pays et plutôt que de migrer. Et ça, je trouve ça vraiment absolument aberrant. Et voilà, je pense qu'une bonne partie de la population a l'air sensibilisée, mais une bonne partie a l'air de ne pas l'être non plus sur le fait que c'est pas une partie de plaisir pour ces gens-là que de tenter cette aventure plus que périlleuse.
Et que ce n'est pas un choix.
Oui, non, bien sûr. Oui. C'est souvent, en plus, des témoignages qui ont pu être recueillis à bord du bateau, et même une fois en Europe, etc. C'est que ces gens-là, pour la plupart, en fait, ont vraiment déjà fui une situation qui était très délicate dans leur pays d'origine, qui ensuite ont rencontré une situation, cette fois-ci dangereuse, et voire mortelle pour certains, en Libye, et qu'ils n'ont pas vraiment eu d'autre choix que de tenter de prendre la mer, parce que c'était soit ça, soit périr en Libye. Donc c'est quand même... on parle pas effectivement de choix.
Toi, personnellement, comment tu es ressorti de cette expérience de sauveteur en mer ?
Ben, changer, après je ne saurais pas dire de quelle manière, mais oui, c'est sûr que c'est... Ben, c'est surtout, que ça soit en mer ou autre, mais c'est de voir des gens dans une telle détresse, voir des gens périr devant soi, de pas pouvoir forcément apporter plus que ce qu'on apporte d'ores et déjà, même si tout le monde vous dit que c'est beaucoup. Et surtout, situer... L'aspect, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan, les opérations qu'on mène, parce qu'on n'est pas assez de bateaux. Et surtout, du fait que ça soit vraiment une goutte d'eau dans l'océan, voir à quel point l'Europe met un point d'honneur, enfin l'Europe et les différents pays, met un point d'honneur à saper les opérations de ces différentes ONG, de réduire l'activité de la marine italienne, qui également procède à beaucoup de sauvetage, il faut le dire, etc. Machin. Et que ça semble littéralement, enfin, totalement stupide, mais voilà, enfin... comme si on vous interdisait de donner un euro à une personne SDF dans la rue, ce genre de choses. Enfin, ça relève. Et de ça, en fait, de voir à quel point ça peut aussi passer au-dessus de la tête d'un certain nombre de personnes, enfin, des populations en règle générale, au-delà de ça, quoi.
On va clore ici, à moins que tu souhaites rajouter quelque chose.
Non, c'est gentil. Enfin, merci à Grenouille qui nous accueille dans ces conditions financières difficiles. J'appelle à ce que notre campagne de soutien se déroule bien.
Exactement, il faut soutenir, on doit tous se soutenir les uns les autres, soutenir Radio Grenouille, soutenir SOS Méditerranée. Pour les actions continues, je voulais juste préciser que SOS Méditerranée fonctionne avec plus de 90% de fonds privés. Et donc c'est juste l'union de citoyens comme vous et moi qui permettent que ces opérations se poursuivent et qu'on continue à sauver des personnes dans la Méditerranée, cette belle bleue dont la couleur s'assombrit de jour en jour. Je vous remercie pour votre écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on accueille Imhotep du groupe IAM qui fait partie du comité de soutien de SOS Méditerranée. À très bientôt. Mmh.